Mauricie se lève.
Que la Mauricie se lève. Votre source d'information. Voici Catherine Gaudreau.
On vous le rappelle, la belle-mère accusée de meurtre au second degré et de séquestration d'une fillette de 7 ans. Salut Alex.
Salut Catherine.
Alors, tu nous avais présenté le témoignage de cet expert. Oui. Témoin de la défense. Oui. Hier, c'était la même personne, mais contre-interrogé.
Oui, contre-interrogé, cette fois-ci par la couronne.
Oui.
Donc, ça a été assez serré là. Hier, là, je vais te dire une chose, ça a donné droit à des échanges plutôt musclés entre l'avocat de la couronne et également la témoin experte pour la défense, Mme Annie Sauvageau, qui est consultante en pathologie judiciaire. Et malgré là, tous les exemples, toutes les questions que lui a posées l'avocat de la couronne, elle n'en démarre pas, là, elle conserve sa théorie, comme quoi elle l'écarte pas totalement là, le fait que la fillette aurait pu être morte de la présence de ruban adhésif sur le nez et la bouche, parce qu'elle dit de toute façon, elle dit, je ne l'ai pas vue, mais elle dit, à la lumière là, de tout ce qu'on m'a présenté, malgré tous les scénarios que vous m'offrez, pour moi, ça demeure la cause la moins plausible des trois qu'on retient. Là. C'est-à-dire okay. que vraiment, là, elle insiste sur le fait que c'est pas le ruban ou ce serait pas le ruban adhésif sur le nez et la bouche qui aurait causé la mort, plus que le ruban adhésif sur le reste du corps. Donc, pour deux raisons. Ça aurait fait augmenter la température corporelle drastiquement et aussi parce que les bras en croix attachés au niveau du thorax, ça l'aurait là, empêché de respirer adéquatement, donc de régénérer suffisamment l'air dans ses poumons. Puis, tu sais, l'avocat de la couronne là, lui a donné plein d'exemples. À un moment donné, il dit « Ouais, mais il dit, tu sais, il dit le ruban adhésif, là, il dit, si ça fait une pochette d'air, c'est-à-dire que oui, il y a de l'espace, mais c'est une pochette d'air, puis ça se régénère pas à l'intérieur de cette même pochette. » Comme quelqu'un, par exemple, mm-hmm. tu sais, quand on compare là, un sac de plastique sur la tête,
ouais.
là, par exemple.
Ouais.
Bon, ben, c'est parce qu'elle dit « Oui, mais quand on remarque que les gens... » s'étouffe avec un sac de plastique sur la tête, c'est pas parce qu'il est fermé hermétiquement, c'est à cause qu'il vient bloquer le devant ouais. du visage. Donc, elle dit encore dans ce cas-ci, elle revient avec le moindre pli, le moindre petit trou. Ça aurait permis, à ce moment-là, le trou étant dans le ruban adhésif,
ouais.
après ça, elle dit le corps va être capable de régénérer suffisamment d'air si le trou est petit, parce que ça fait en sorte que l'air ne sera pas toujours... le même. Bon.
Okay.
Ça, elle a vraiment insisté là-dessus lors du contre-interrogatoire hier. Elle est aussi là, revenue sur la malnutrition.
Ouais,
elle l'avait brièvement abordé la veille, mais hier, là, elle y est revenue encore parce que pour elle, ça ne démontre pas de malnutrition.
Contrairement à l'autre experte de la couronne, Dr Tanguy, qui, elle, soulignait ça, que l'enfant était très maigre,
ouais.
qu'elle avait probablement souffert de malnutrition.
Ben, c'est ça, c'est que, tu sais, on les a vus, les photos de la fillette sur la scène, on les a représentées hier pour demander l'avis de Mme Sauvageau vis-à-vis ces photos-là qui sont, puis je vous en avais déjà parlé de toute façon, assez éloquentes. Ben, elle dit, c'est parce que le fait qu'on voit la fillette comme ça, tout maigre, ça s'explique par l'absence de tonus musculaire qui donne pour elle une fausse impression de maigreur. Donc, elle dit scientifiquement, là, c'est pas le cas qu'elle soit très rachitique là, ou maigre. Oui, à l'œil nu, mais quand on compare les IMC, là, on est revenu là-dedans, l'IMC d'un enfant en Afrique, parce qu'on a ramené cette
ah,
image-là,
oui.
que ça avait déjà été soulevé
ouais.
de toute façon plus tôt dans le procès. Ben, elle dit, tu sais, en Afrique, les enfants vont avoir des bedons de liquide parce qu'il y a un manque de protéines. Et un enfant, là, en Afrique, par exemple, si on comparait les enfants tout maigres qu'on voit, ben, son IMC serait bas parce que la grandeur serait à peu près normale, là, et le poids, ben, ce serait très maigre. Alors que la fillette, ben, est très maigre, mais est très petite aussi. Ça fait qu'elle se dit l'IMC se suit. Donc, on ne peut pas comparer ça à la situation des enfants en Afrique.
OK. Question pour toi, parce que, il y a une autre question de Maître Robitaille, l'avocat. Il lui a demandé si elle avait été en présence du corps de la fillette. Et elle a répondu non. Ça a toujours été des photos et donc des documents
exact.
Issus de l'autopsie.
Ouais.
Est-ce que, contrairement à Dr Tanguy, donc l'autre experte, est-ce qu'elle avait été en contact avec le corps de la fillette ou encore
oui.
là? C'était... Oui,
ouais,
c'est ça la différence entre les deux, peut-être?
Oui, c'est que Mme Sauvageau, elle est appelée pour faire des deuxièmes, troisièmes opinions.
D'accord.
Donc, on lui envoie tous les documents, les photographies, également là, tous les témoins qui ont été entendus, elle est là, tout ça.
Okay.
La différence avec, effectivement, la pathologiste, la docteure Caroline Tanguay, c'est que c'est elle, elle a vu le corps à proprement dit.
Okay.
Elle a rempli le rapport par la suite.
Okay.
Mais, tu sais, de toute façon, Mme Sauvageau, quand elle présente ses explications, elle se base sur le travail qui a été effectué par Dr. Tanguay et ce qu'elle a fait à la base comme travail. Là.
Parfait.
Parce que de toute façon, Mme Sauvageau n'en fait plus depuis quelques années des autopsies à proprement dit. Elle a expliqué qu'elle en a déjà fait dans sa carrière, là, mais là, elle fait autre chose, donc toujours dans le domaine de la pathologie.
Okay. Bon, alors ça, c'était le dernier témoin.
Ben, c'était le dernier témoin de la défense,
ouais.
Mais ça donne aussi que, c'est, comme il n'y a pas de contre-preuve, c'est le dernier témoin tout court.
Tout court, exact.
Donc, c'est terminé. Ça veut dire que, là, il y a des gens qui se disent, ouais, mais dernier témoin, OK, ça change quoi pour nous autres?
Mm-hmm.
Ben, c'est parce que vous n'entendrez rien de nouveau par rapport à cette histoire-là.
Okay.
T'sais, ça veut dire que toute la preuve qui avait été présentée le procès, c'est faite.
Là,
ce qui reste, c'est les plaidoiries. Lundi, mardi,
okay.
Les plaidoiries, on va commencer par la défense. Comme je te l'avais dit hier, comme la défense a décidé d'offrir une défense, ils ne terminent pas. Donc, c'est eux qui commencent, la couronne termine.
Mm-hmm.
Les plaidoiries, c'est donc l'opportunité pour les deux parties de présenter leur propre histoire, leur propre version des événements en racontant leur version, en se basant sur ce qui a été présenté en preuve au long du procès. Donc, vont expliquer au juré, selon eux, ce qui est arrivé, les deux parties. Ensuite, le juge a déjà averti les jurés de préparer leur petite valise mardi soir, puisque mercredi, là, donc, ça voudrait dire que les jurés devraient commencer à être séquestrés. Ils auront les consignes du juge et par la suite pourront aller délibérer. Le juge leur a rappelé qu'il y en a deux qui allaient faire leur valise pour absolument rien.
C'est vrai, oui.
Parce qu'il y en a 14, on va en retenir seulement 12. Et après ça, ben, à partir de mercredi, normalement, là, parce que c'est ce que le juge a dit aux jurés hier, ben, on va attendre.
Ça va être ça.
Et ça, on ne sait pas quand le verdict peut tomber. Là. Ça peut prendre, ce serait surprenant, là, mais une heure, une journée, deux jours, trois jours, quatre jours, une semaine,
on
deux semaines.
Pas.
On ne sait pas.
OK. Alors, ça peut arriver à... Parce que je te posais la question tout à l'heure en dehors des ondes, la semaine passée. Est-ce que ça peut arriver à tout... Bien, pas toute heure du jour et de la nuit. Là. Je me doute bien qu'on ne sortira pas à 3 heures du matin. Mais comment ça fonctionne comme médiane où on est averti quand... Les jurés sont prêts à rendre leur verdict, c'est
ça? Oui, et d'habitude, il y a des horaires de délibération.
Okay.
Ça fait qu'on sait que les jurés, par exemple, vont se rencontrer entre telle heure et telle heure, telle date. Fait que ça se peut qu'il y en ait le mardi soir, là, ou ça se peut qu'il y en ait un samedi. Si on ne le sait pas, comme ça se peut qu'il n'y en ait pas.
Ouais.
On va le voir. Là, j'imagine qu'on va avoir une idée là, éventuellement de ce que va être l'horaire de délibération. Et oui, à ce moment-là, on nous appelle là, pour nous dire... Ben, les jurés sont prêts à rendre leur verdict.
Bon, alors voilà, on y... ça achève. Ça se termine bientôt. Mais comme tu le dis, pour l'attendre, à partir du moment où le jury est séquestré, là, on ne sait pas combien de temps ça va durer.
Ça va avoir duré 8 semaines, hein, malgré tout, Catherine, parce que là, on est dans la 7e qui se termine aujourd'hui. Semaine prochaine, ça va faire 8 semaines.
On est dans
deux
les délais.
De procès.
Et quand même, puis malgré le fait... Donc, ça aurait été plus court parce qu'il y a quand même eu une pause, là, des choses à gérer là, entre les avocats et tout ça, mais ça a été... Finalement, c'est à peu près ça, 8 semaines au total.
Effectivement, mais il faut dire qu'on n'est jamais à un rebondissement après non plus dans ce genre d'événement-là.
Il y a ça. OK.